Bienvenue sur Foxeo. Ayant démarré mon business de zéro en 2018, je suis convaincue qu'on peut bien vivre de nos métiers en trouvant nos clients en direct et en développant surtout nos compétences commerciales. Moi, c'est Muriel et ma mission, c'est de vous aider en tant que femme freelance à vous développer et à vous vendre avec confiance. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je parlerai de stratégie, de développement commercial, de marketing de contenu, d'expérience client et de mindset. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Merci de votre écoute. Avant de rentrer dans l'épisode du jour, je t'invite à rejoindre mon programme Immersion. C'est un programme phare, complètement en ligne, qui va t'aider à créer un modèle d'affaires qui soit rentable et sur mesure, tout en te réconciliant avec la vente. Donc, j'ai vraiment bâti ce programme pour que tu puisses mettre en place des fondations solides et t'aider à trouver et attirer des clients à ta manière, en fonction de ton propre fonctionnement énergétique, avec simplicité et plaisir. Simplicité parce que vraiment, j'ai plutôt une approche de la vente qui est à la fois éthique et minimaliste. Donc je suis pas là pour te surcharger de choses à faire, au contraire je suis là pour t'aider à simplifier, à y voir clair dans ta stratégie et dans ta direction. Et je te prodigue mes conseils en vente, donc moi je suis un pur produit du marketing et de la vente B2B, mais aussi en infusant énormément de conseils liés au human design. Donc ça va t'aider à faire une approche qui te ressemble sans t'enfermer dans une méthodologie toute faite. Je t'invite à cliquer sur le lien en descriptif de l'épisode pour retrouver toutes les informations détaillées sur le programme Immersion. Et maintenant, place à notre sujet du jour. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Foxeo avec une superbe invitée, Sandra, qui dirige le studio et moi. J'ai eu le plaisir de rencontrer Sandra à l'occasion, en fait on est toutes les deux dans le même club d'affaires qui s'appelle Bouge ta boîte, un réseau d'entrepreneurs 100% féminins, si jamais ça vous intéresse, ce type de réseau qui existe à la fois en digital et en local. Petit aparté pour Bouge ta boîte. Et avec Sandra, on accompagne toutes les deux les entrepreneurs et Sandra a une approche que j'aime beaucoup, qui me touche en ce moment puisque je suis en train de la mettre vraiment petit à petit dans mon entreprise. C'est d'aider les entrepreneurs à se développer et alors sur plein d'autres choses, hein, mais notamment, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sans dépendre des réseaux sociaux. Donc on va vous guider aujourd'hui, échanger sur le sujet et Sandra va vous partager des pépites de conseils sur comment je peux trouver mes clients sans dépendre des réseaux sociaux. Sandra, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bien, merci à toi, Muriel, de m'inviter sur ton podcast. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui, effectivement, comme tu l'as dit, nous touche particulièrement toutes les deux. Et moi, c'est vraiment mon approche, mon axe différenciant, puisque j'accompagne donc les solopreneurs qui sont plutôt en début d'activité à trouver des clients, puisque c'est quand même le but de l'entrepreneuriat, c'est de générer du chiffre d'affaires. Donc, je les accompagne dans ce cheminement. Et effectivement, sans dépendre uniquement des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on va pas se mentir, aujourd'hui sont devenus complètement incontournables, mais on a tendance à occulter les autres moyens qui existent et on va développer un petit peu tout ça aujourd'hui. Mais effectivement, je pense qu'il faut avoir en tête le fait que on n'est pas obligé de maintenir une présence continue sur les réseaux sociaux pour arriver à développer son entreprise.
Complètement. C'est ce qui m'a plu. C'est vrai qu'il y a. Alors moi, c'est vraiment venu cette manière de faire vraiment suite à Instagram et tous les changements d'algorithmes. Donc bon, de toute façon, les algorithmes changent tout le temps, mais Instagram, je sentais en tout cas que ça me poussait à, comme tu dis, cette omniprésence, de dire tiens, il faut jouer avec des lives, jouer avec des stories, jouer avec des posts, avec des carousels, avec des reels. Donc c'est d'un côté, on peut se dire bah c'est une opportunité. Enfin pour ceux en tout cas qui aiment être très présents sur les réseaux sociaux, c'est une opportunité parce que la plateforme permet d'exploiter plein de choses. Et puis de l'autre côté, et moi pour le coup, bah ça me correspondez-moi, c'est ce côté dès que je fais quelque chose, dès que je bouge le petit doigt, il faut que je pense à le partager ou à faire une story. Et j'avais l'impression de devoir vraiment travailler pour les réseaux sociaux et moi pour mon business et ma communauté et mes clients. Et peu à peu, je me suis dit non, ça prend trop de place. Et j'ai vraiment senti cette charge mentale quand j'ai basculé, tu sais, de consultante en marketing à mentor, où il y a plus une activité en ligne en fait. Et là, on a l'impression qu'il y a que ça, que c'est incontournable comme tu le dis, mais qu'en gros il n'y a que ça et qu'on met le focus uniquement sur les réseaux. Je sais pas, toi, comment c'est venu? Est-ce que c'est venu aussi d'abord par toi ou est-ce que c'est venu directement pour tes clients? Comment t'es venu aussi à avoir les choses comme
non,
ça?
Non, c'est effectivement aussi de ma propre expérience personnelle parce que comme tout un chacun, quand je me suis lancée, hop, j'ai été sur Instagram, j'ai fait mes petits posts, j'y ai passé des heures et des heures et des heures et très clairement, le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances et surtout pas à la hauteur en fait du temps que et de l'investissement que j'avais fait par rapport à ce média. La notion de rentabilité est quand même la clé dans une entreprise. Et cette notion-là, justement, de rentabilité par rapport au temps passé, est-ce que vraiment je retire un avantage concret de tout ce temps et de l'énergie que j'y consacre? La réponse, dans mon cas, était clairement non. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je connais les autres moyens de se faire connaître. Pourquoi, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis focalisée là-dessus? Comme tu le disais, en fait, on part tous sur les réseaux sociaux, on en oublie le reste. Tous ces moyens alternatifs, je les ai explorés tout au fil de ma carrière. Comme beaucoup, je suis issue d'une reconversion professionnelle. Eh ben, je sais pas, tu vois, quand je suis devenue entrepreneur à mon compte, à travailler de chez moi, en fait, je les ai un peu occultés, ces moyens-là. Et il m'a fallu quand même quelques mois pour en prendre conscience. Et quand je me suis enfin décidée à franchir le pas et à procéder de manière différente, eh bien, c'est là, en fait, où j'ai vu toute la différence par rapport à mon entreprise. C'est là où j'ai vraiment obtenu mes premiers vrais clients, dans le sens clients fidèles et récurrents et un vrai chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que, au niveau de mon mentorat, je me suis vraiment dirigée sur cette différenciation-là, parce que je trouve ça tellement dommage que des entrepreneurs au féminin surtout, en fait, perdent du temps dans leur activité, voire même arrêtent leur activité parce que finalement, elles ne trouvent pas leur compte sur les réseaux sociaux, elles ne trouvent pas leurs clients et elles n'ont pas la possibilité d'attendre des mois, voire des années pour se tirer un vrai revenu, alors qu'en procédant simplement de manière différente, elles pourraient tout à fait et très bien y arriver. Donc, effectivement, c'est venu comme ça. Et je le constate vraiment tous les jours qu'il y a, enfin, voilà, les autres moyens sont tout à fait, enfin, pour moi, en tout cas, largement plus rentables que les réseaux sociaux. Surtout avec les changements d'algorithme, surtout avec la concurrence qui se fait aussi de plus en plus présente, hein, sur les réseaux. Donc ça devient de plus en plus difficile de se faire remarquer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Il y en a, hein, qui réussissent et c'est très bien, tant mieux. Il faut aussi des modèles par rapport à ça. Mais c'est quand même très loin d'être la majorité.
Mmh, complètement. Ouais, et puis je pense qu'il y a une question aussi de personnalité. Moi, je sais que j'aime bien ne pas passer ma vie justement sur les réseaux sociaux. J'aime bien faire d'autres choses, tu vois, ce qu'on fait ensemble en podcast, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a un an, que j'aime beaucoup. Je suis régulière sur une newsletter une fois par semaine et ça me plaît beaucoup. Et pareil, donc je me suis... C'est marrant, enfin, quand tu m'as dit oui, j'ai occulté des choses que je savais, et ben j'ai fait un peu pareil. Vraiment, quand il y a eu ce passage plus activité en ligne, avant, j'étais principalement alors quelques posts LinkedIn et puis de la prospection et du réseautage d'affaires et un site propre bien référencé. Et ça me suffisait et je faisais une activité et je passais pas ma vie à me dire « Oh là là, faut que je poste, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je publie, etc. » Parce qu'on a beau dire, sur le long terme, hein, ça fait 5 ans et demi que je suis lancée, à un moment donné, c'est quand même un sacré marathon de tout le temps communiquer sur les réseaux sociaux, quoi. Hein. 1 an, 2 ans, ça va bien, mais au bout de 5 ans et demi, à un moment donné, on peut se poser la question. Et quand je suis passée en ligne, bah, j'étais à fond aussi sur Instagram, j'ai même délaissé LinkedIn. Et puis finalement, je me suis dit « Waouh, toute cette énergie, j'ai fait quelques ventes, hein, c'est sûr, mais clairement pas à la hauteur de ce que je faisais auparavant. Je convertissais beaucoup en masterclass, alors ça oui, ça fonctionne, mais aussi en newsletter, alors que voilà, j'ai une petite newsletter mais qualifiée, donc voilà, la qualité plutôt que la quantité, et le podcast aussi qui m'apporte, alors que c'est un jeune podcast. Et le réseau, bah voilà, on a parlé de bouche à boîte au début, mais je pense qu'aussi le réseau d'affaires local peut être une piste, mais c'est pareil, ça va dépendre de la personnalité, de ce qu'on a envie de faire, de comment on est à l'aise. Mais en tout cas, il y a plein de pistes. Et il y avait... Alors, le comble, c'est qu'à la base, je faisais de la rédaction SEO. Et j'ai complètement... J'avais même pas envie, en fait, d'écrire pour mon blog. J'ai fait quelques articles. Mais j'avais pas envie de passer du temps à écrire. J'écrivais pour les clients. J'avais pas encore envie d'écrire pour moi. Donc, le cordonnier le plus mal chaussé. Et il y a aussi ce levier SEO. Je sais pas si tu en vois d'autres, si... des stratégies.
Tu as cité les principaux. Après, je pense qu'il faut surtout avoir en tête qu'on reste des humains et qu'en tant que tel, on a besoin d'échanger. Et à partir du moment où on accepte d'aller vers les autres, d'échanger, d'avoir des vraies conversations, en fait, finalement, la conversion devient aussi plus facile. Et je pense qu'il faut surtout avoir en tête de... je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de pas hésiter à se montrer tel qu'on est. Et c'est aussi ça qui va faire que derrière, tout va se mettre petit à petit, bout à bout. Tu vois, tu parlais de la newsletter, du podcast. Moi, j'adore ces moyens-là parce que c'est des moyens qui sont beaucoup plus intimes que les réseaux sociaux. En plus, ils t'appartiennent, tu peux vraiment dire ce que tu veux sur ces réseaux-là. T'es pas soumise à « il faut que je dise les choses d'une certaine façon pour que l'algorithme puisse mieux me référencer », par exemple. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus authentique. Après, peut-être la chose que je rajouterais, tu vois, sur les différents moyens par rapport à ceux que tu as cités, c'est aussi quand on fonctionne en local, c'est ne pas oublier les petits magasins en local, ne pas oublier sa fiche Google My Business sur Internet. Oui. Et puis juste ne pas hésiter à parler de son activité et ne pas en avoir honte. Et même en local, quand on va à une soirée avec des amis, eh bien, il faut parler de son activité parce que bah, ces amis-là, peut-être que eux, ils connaissent quelqu'un qui pourrait avoir besoin de nous. Et ça, on ne le sait pas, évidemment, on ne peut pas le deviner. Mais sauf que si on ne parle pas de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, évidemment que les gens ne peuvent pas non plus le deviner eux-mêmes.
Oui, t'as raison, faut se voir un peu comme un commerce ambulant, tu vois. Partout où on va, on se déplace, bah, on est notre vitrine en permanence et bien sûr qu'il faut couper du boulot, mais t'as tout à fait raison. Moi, j'ai une anecdote où en promenant le chien, avec, tu sais, bah, t'as l'habitude, tu prends les chiens, donc tu connais l'entourage des autres maîtres qui ont des chiens, tu discutes, et puis j'ai eu des clients et des collaborations très durables, comme ça, juste en promenant le chien au quotidien et juste en expliquant ce que je faisais.
Bien sûr, en fait, souvent les entrepreneurs, les femmes, je le précise parce qu'à l'oral, on n'entend pas le
Oui.
ont toujours tendance à se dévaloriser, à dire, quand on pose la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Bah, j'ai une petite entreprise », tu vois, ce petit mot justement « petit » qui revient très fréquemment. Et on a tendance à ne pas oser donner plus de détails que ça. Je sais pas, peut-être par peur de ne pas être prise au sérieux ou parce que tout simplement, on n'est pas non plus à l'aise avec ce qu'on propose, tu vois, c'est pas très clair pour nous et du coup, on ne transmet pas le message de la bonne façon. D'ailleurs, là où toi et moi, on intervient justement pour éclaircir ce message-là, tu vois, pour poser les choses et que nos clientes soient plus sereines aussi à l'idée de le diffuser. Et je trouve que ça, c'est fort dommage parce qu'en fait, elles se privent de contacts potentiels qui pourraient leur apporter du chiffre d'affaires.
Oui, t'as raison. Dans le vocabulaire, bah, quand on se présente aussi, souvent, on met en avant le statut. J'ai envie de dire, mais quand tu te présentes ton activité, on s'en fiche que tu sois en micro, anciennement auto-entreprise, SASU ou quoi. Alors effectivement, moi, quand j'allais voir des entreprises plus grosses, elles aimaient bien, elles étaient rassurées du fait que je sois en statut société. Mais clairement, c'est pas une obligation et c'est pas un prérequis. Et justement, en fait, faut dire voilà ce que je fais et puis on s'en fiche du statut juridique. En fait, c'est pas ça qui compte.
Complètement. Et puis ça dépend des métiers aussi et des secteurs d'activité. Pour moi, en tout cas, je pense pas qu'il faille se présenter sous cette forme-là parce que c'est pas la bonne façon de faire. Et les gens qui achèteront chez vous, ils achèteront pour vous. Ils achèteront pas parce que vous êtes en micro ou parce que vous êtes installé depuis 1 an ou depuis 5 ans ou parce que voilà. C'est avant tout une histoire de relations humaines. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête.
Est-ce que tu as des exemples, alors du coup, bah, soit pour toi, parce que bah, toi comme moi, du coup, on a analysé un peu les chiffres, ou soit pour une cliente que tu as pu accompagner, qui t'a marqué ou que tu aurais en tête, de justement la transformation, tu sais, le passage de, bah, avant, elle était par exemple sur tel canal, telle stratégie, et ensuite, voilà ce qu'on a mis en place, et qu'est-ce qui s'est passé, parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent la question. Moi, je sais que quand j'ai dit, attention, voilà, je quitte Instagram, ça sera peut-être juste une vitrine, mais je vais plus du tout m'épuiser là-dessus, je serai un peu sur LinkedIn et vous me retrouvez à tel endroit. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, tu nous diras ce que ça a apporté comme fruit, comme résultat, en gros, si ça vaut le coup et comment ça se passe. Qu'est-ce que ça produit ?
Oui, alors bah, déjà, je peux parler de moi parce qu'il y a un axe qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les collaborations. Et en fait, moi, quand j'ai décidé de m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux, je continue de publier, hein, mais je veux dire de pas m'axer que là-dessus, eh bien, j'ai entamé des collaborations avec d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont dans des métiers complémentaires aux miens, avec lesquels, en fait, on avait une vraie valeur ajoutée. Donc, j'ai pu en réaliser 3, par exemple, avec 3 entrepreneurs différentes. Et ça, clairement, Encore une fois, ça dépend de sa personnalité parce qu'il faut être à l'aise avec ça. Mais c'est un sacré levier, en fait, de visibilité et puis d'engagement. Parce que déjà, on bénéficie chacune, l'une de l'autre, des compétences et puis de la communauté de l'autre. Donc, obligatoirement, en fait, ça crée un effet boule de neige, tu vois, mais positif. Moi, à chaque fois que j'ai fait des collaborations, ma newsletter, elle a pris des pics d'abonnés et des gens qualifiés qui ne se sont pas désabonnés par la suite. Contrairement au lead magnet, où je remarque que le taux de désabonnement est beaucoup plus important. Et ce qu'on veut, c'est quand même une liste qualifiée. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai rien à faire d'avoir 1000 abonnés si c'est 800 abonnés fantômes dessus. Je préfère en avoir 400 qui soient vraiment qualifiés et qui s'intéressent à ce que je peux leur proposer. Et ça, c'est largement suffisant.
Et t'entends quoi, justement, par collaboration? Parce que moi, c'est vrai que je connais plus les apports d'affaires, tu vois. Donc, est-ce que c'est tu crées une offre commune? Parce qu'il y a plein de manières. En tout cas, toi, comment tu l'as mis en place? Qu'est-ce que tu entendais par cette collaboration?
Ouais, je l'ai fait de plusieurs manières. Il y a effectivement le fait de créer une offre commune. Donc, on crée notre offre et puis on la commercialise, en fait, évidemment, en même temps. Et on anime cette offre de façon commune. Donc, avec chacune sa spécificité, chacune son domaine d'intervention. Et c'est vrai que ça permet aux clients de bénéficier finalement d'une double compétence, d'une double expertise. J'ai pu aussi faire des collaborations sur l'animation de webinaires. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Donc il n'y a pas d'optique de vente vraiment derrière, tu vois. Et voilà, ça permet de se faire connaître l'une l'autre. C'était beaucoup plus dans une optique de visibilité. Et puis aussi d'asseoir sa crédibilité et son expertise auprès de sa propre audience. Et puis, la dernière collaboration, c'était... en fait, j'ai allié les deux, c'est-à-dire qu'on a fait une masterclass, mais cette fois-ci, dans l'optique de vendre, une offre commune. Donc, j'ai pu tester les trois.
Oui, ouais, mais c'est chouette. Oui, c'est chouette.
Et je dirais qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, en fait. Ça dépend de sa personnalité, de la personne avec qui on collabore, et puis de ce qu'on a envie de faire, tout simplement.
Du moment, de l'envie du moment, quoi.
Ouais, exactement. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de chiffre d'affaires ou est-ce que c'est parce qu'on a besoin de se rendre plus visible? Peut-être parce que dans quelques mois, on aura une offre à promouvoir. Enfin, il faut aussi savoir anticiper tout ça. Puis aussi, savoir prendre du plaisir. Tu vois, on peut aussi tout à fait se dire, tiens, moi, je veux faire une collaboration parce que j'adore cette personne. J'aime beaucoup sa façon de procéder et sa vision des choses. Et je vais prendre du plaisir à animer quelque chose avec elle. Oui, mais encore une fois, il faut pas avoir peur, en fait. Il faut oser y aller, il faut se lancer un petit peu dans le grand bain. La première fois, c'est toujours très difficile. Et puis, petit à petit, on s'y fait. C'est un peu comme le podcast. Le premier épisode, il est pas parfait. Et puis, petit à petit, on s'améliore.
Oui, complètement. Puis, il y a différentes... Donc, moi, par exemple, j'ai pivoté et je suis allée plus vers la stratégie de croisement de visibilité. Donc, ça peut être sur un live, comme tu le dis, mais notamment sur le podcast, parce que j'ai vu que c'était un moyen qui me plaisait, comme tu dis, qui est intimiste, où on est assez libre. Et j'ai vraiment mis en place de pousser un peu plus, vraiment les inviter et être invité aussi de l'autre côté. Donc ça, je verrai les fruits que ça va apporter plus tard, parce que je suis en train de semer. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui me correspond, qui est pas énergivore ou voilà chronophage. Et c'est juste du plaisir. Et puis c'est pas 15 000 fois par semaine, quoi. Là, c'est pareil aussi au niveau du degré d'implication. On le fait à la hauteur qu'on veut, qu'on le souhaite. Donc moi, je prends un rythme plutôt sain et durable. Et je faisais aussi des apports d'affaires. J'amène quand même régulièrement, j'ai amené beaucoup de collaborations, donc de partage de missions à d'autres prestataires, soit où on travaille ensemble, où c'est pas le moment, où c'est pas le sujet, où c'est pas une thématique qui m'anime. Et dans ce cas-là, je partage le bébé à une autre entrepreneur aussi.
Oui, c'est un petit peu l'équivalent de la filiation, mais c'est moins connu que la filiation, en tout cas sur le monde Internet. Et effectivement, ça peut aussi être un très bon moyen de générer du chiffre, évidemment, puisqu'il y a des commissions par rapport à ça, des commissions d'apport d'affaires, comme la filiation. Mais aussi, je trouve que ça permet de mettre en avant aussi d'autres entrepreneurs, de participer à cet écosystème-là aussi du milieu de l'entrepreneuriat. Moi, je trouve que c'est quand même assez important. Et puis aussi, de pas se sentir obligé, en fait, de faire quelque chose dont on n'a pas envie. Comme tu l'as dit, tu vois, si c'est quelque chose qui ne m'anime pas, je vais le donner à quelqu'un pour qui c'est vraiment le cœur de métier ou qui l'anime particulièrement. Et ça évite de se sentir aussi frustré à la longue sur ce genre de mission. Et puis que nos propres clients soient mécontents finalement. Le fait de faire un apport d'affaires, évidemment que ta cliente à qui tu vas avoir proposé ce prestataire-là sera content que tu l'aies fait plutôt que de lui faire la prestation qui au final ne sera pas forcément à la hauteur de ses attentes. En ça, l'apport d'affaires est très, très
Oui,
vertueux,
oui,
je
oui.
trouve.
Alors, j'avoue que je prends pas beaucoup de com, hein. Je me suis dit, va falloir quand même, à un moment donné, prendre une rétro-com parce que ça faisait quand même une belle somme à l'année, hein, de l'ordre de 30 000 euros à peu près par an, quand même, d'apporter, où je donnais, hein, vraiment gratuitement. Donc, ouais, je commence un peu plus à me
Énorme.
discipliner là-dessus, mais vraiment, ouais, c'était la volonté, plutôt comme tu dis, de créer un écosystème où on partage les offres, quoi. Enfin, ouais, on a tous besoin de prospects, de demandes. Si on le fait pas, moi, je trouve ça vraiment dommage quand parce que c'est pas un réflexe hein, chez tout le monde de se dire ben il y en a beaucoup qui disent tout simplement non et puis ils passent à autre chose quoi. Non, je peux pas, non, j'ai plus dispo, merci, au revoir. Et voilà, je trouve que c'est bien un peu de s'ouvrir et de pas enfin éviter de penser qu'à soi et de se dire OK, mais si moi je peux pas, qui peut le faire, qui je connais? Et je recommande aussi des personnes que je connais ou que soit j'ai déjà travaillé avec, soit je connais le travail et la personne pour ne pas non plus me décrédibiliser parce que quand on fait une recommandation auprès de quelqu'un, on s'engage aussi. Enfin moi je m'engage en tout cas quand je le fais, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que je m'engage pleinement vers qui je dirige. Donc si derrière ça se passe mal aussi, ça peut aussi se retourner contre moi en me disant bah, attends tu m'as recommandé un tel, ça va pas du tout. Donc je suis pas maître de ce qui se passe derrière. Par contre, je fais attention vers qui je recommande, quoi. C'est pas le premier nom venu, comme ça, au petit bonheur la chance, quoi.
Oui, ça c'est vrai que c'est important de le souligner parce que quand tu recommandes quelqu'un, tu t'engages, même de manière indirecte, tu engages ta responsabilité, tu engages ta réputation aussi, et c'est vrai que c'est important de connaître le travail de la personne au préalable. Mais c'est vrai que pour faire toujours le parallèle avec le monde réel par rapport au monde virtuel, dans le monde réel, en fait, on le fait très naturellement. C'est-à-dire que si demain tu as besoin d'un plombier, tu vas demander à tes amis, est-ce que tu connaîtrais pas un plombier par hasard, quelqu'un de bien, en qui je peux avoir confiance, et ils vont te donner un nom si eux-mêmes ont déjà eu affaire à ce genre de métier. Et dans le monde virtuel, que je dis monde virtuel, c'est voilà nos métiers sur Internet, bah on oublie de le faire. Et je trouve que c'est fort dommage en fait. On oublie dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que nous, si on a besoin, on va pas oser demander. Et à l'inverse, comme tu disais, les personnes qui ne se sentent pas pour des raisons X ou Y, hein, en mesure de faire la prestation, ne vont pas non plus penser de dire bah tiens, moi je peux pas, mais par contre je connais un tel qui va le faire. Alors que les artisans, ils le font très naturellement.
Donc tu mets le focus sur des collaborations. Est-ce que tu mets aussi le focus sur le référencement? Si c'est vrai que le référencement naturel, c'est un bon levier. Est-ce que voilà.
Alors non, malheureusement, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Ça fait partie de mes projets, plutôt court terme. Mais effectivement, ça fait partie, je trouve, des choses qui fonctionnent très bien. Il faut un peu de temps pour que ça se mette vraiment en place, le temps que voilà que les pages remontent
Oui,
de
oui,
manière
oui. Mais
correcte.
c'est durable,
Mais je
ouais, c'est
pense,
vrai.
voilà, tu peux en parler certainement plus que
Oui, si t'as
moi
besoin de
sur ce
contact, hein,
sujet-là.
pour en parler.
C'est ça. Mais du coup, effectivement, je trouve que c'est à l'heure d'aujourd'hui un très très bon moyen aussi de se faire connaître
Et
sur la
tu
toile.
préconises, enfin, que ce soit alors pour toi, pour tes clients, tu préconises combien de leviers, par exemple, pour mettre en place une stratégie qui soit différenciante et qui se détache des réseaux sociaux?
Bah en fait, ça dépend. Tu sais, j'habite en Normandie, hein, donc moi j'aime bien cette réponse-là. Non, mais ça dépend vraiment du profil de la personne, ça dépend de son métier, de son secteur d'activité. C'est très variable, tu vois, d'un métier à l'autre. Je sais pas, moi, je vais pas avoir le même discours avec une graphiste, par exemple, qu'avec une sophrologue ou avec encore d'autres types de métiers. Parce que les axes de travail ne sont pas les mêmes déjà en fonction de sa personnalité et puis aussi en fonction de sa cible. Parce que la cible, en fait, c'est quand même, il faut savoir aller la toucher. Et si tu as une cible d'ado ou si tu as une cible de retraité ou si tu as une cible d'entrepreneur, bah tu vas pas aller les chercher de la même façon. Et ça, c'est aussi à avoir en tête. Donc je ne suis pas capable de répondre à ta question.
Il y a ça, et puis comme tu dis aussi, ça fonctionne aussi des compétences et des ressources de la personne. Ressources en temps, est-ce que je peux faire moi-même, est-ce que je suis capable de le faire moi-même,
Tout à
ou des
fait.
ressources financières en se disant aussi, bah, on peut mettre en place une stratégie, mais que tu vas pouvoir déléguer, que c'est pas toi qui va faire, mais on va mettre en place aussi un moyen pour que tu puisses déléguer une partie. Et alors j'ai ton idéal, enfin moi j'imagine, ce que je m'amuse à imaginer en tout cas, c'est carrément un business où il y aurait plus de réseaux sociaux. Je connais une ou deux entrepreneurs qui le font ou qui reviennent juste avec de la pub ou vraiment de manière très ponctuelle. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu aimerais tendre aussi? Est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont osé carrément être out of the box et vraiment quitter l'océan rouge des réseaux sociaux et faire vraiment quelque chose de complètement décalé et différent?
Alors, j'ai pas d'exemple. Parce que effectivement, moi ma cible c'est vraiment justement les personnes qui veulent s'exonérer des réseaux sociaux. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu personne en fait qui s'en est exonérée complètement. Moi la première, parce que je trouve ça intéressant quand même sur un certain nombre de sujets. Par contre, ce qui se passe, c'est moi ce que je prône, c'est vraiment le fait de s'exonérer de la mauvaise énergie, tu vois, que ça génère. C'est-à-dire ne pas culpabiliser si tu ne publies pas une semaine, 15 jours, voilà. T'épuiser à créer du contenu dans le vent, à créer du contenu qui ne t'apporte rien, enfin, ou qui n'apporte rien à ta cible, c'est plutôt ça. Après, effectivement, le fait, j'aimerais bien, pour moi-même, m'exonérer complètement des réseaux sociaux, quoique je trouve que c'est sympa aussi pour échanger, tu vois, vraiment ce côté social, pour le coup, d'échanger avec les personnes.
Ouais, mais est-ce qu'on peut pas... c'est une conversation en tout cas intéressante, je me dirais, est-ce qu'on peut pas créer la conversation autrement, tu vois? Pourquoi on se dit pareil, en gros, si je suis plus sur les réseaux, je perds l'échange avec la communauté. Moi, quand tu vois, par exemple, je suppose que toi aussi, moi, on peut, quand j'écris des newsletters, j'invite aussi souvent à questionner ou à me répondre, j'ai des réponses ou des retours par mail et j'échange derrière, tu vois? Donc tu te dis, c'est vrai, et là c'est pareil, je pense que c'est un peu une croyance qu'on se dit, bah tiens, si je m'enlève des réseaux sociaux, je perds quand même quelque chose. Je vais louper quelque chose. Je quitte la fête un peu trop tôt. Je pense qu'on a encore un peu cette réticence-là.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le vrai mot, réticence, tu vois, qui... En fait, on a peur de manquer, finalement. On a cette peur de manquer de quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Moi, en tout cas, je le fais vraiment par plaisir, tu vois, je me sens pas du tout obligée de le faire. Donc, je m'estime pas lésée par rapport à ça. Mais on peut s'en exonérer, comme tu le disais, notamment avec des réseaux comme Bouge ta boîte. Parce que ces réseaux-là, on a des contacts, on peut aller chercher des gens, dialoguer, faire des visios pour faire connaissance. Et ça, c'est génial. Et puis, il y a les réseaux en local aussi. Moi, je fais partie de réseaux en local. Une fois par mois, on se réunit, on mange un petit croissant ensemble. C'est très sympa. Il y a des intervenantes qui parlent de leur métier et tout. On a cette possibilité d'échanger dans les cas en dehors des réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, en fait, il faut vraiment le faire par plaisir pour que ça aboutisse à quelque chose. De toute façon, ça se ressent si tu te contrains à le faire. Les gens en face, ils le ressentent obligatoirement. Tu vois, c'est comme le sourire au téléphone si tu ne l'as pas, ou au podcast. Si tu ne l'as pas, ça se ressent. Et ça, c'est hyper important.
Complètement, complètement. Mais je pense à... Alors, j'ai oublié le nom, j'avais vu sur un autre podcast, justement, où j'ai reçu une autre invitée, qui elle-même avait une invitée qui parlait de ça, et qui s'est complètement affranchie des réseaux sociaux. Après, voilà, juste en ayant... Tu gardes ton profil. Et ça, moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir un profil à jour, quoi. C'est juste dire, c'est comme un mini-site, j'ai mon site, mais si tu me cherches sur les réseaux, si tu sais, des fois, on me partage en story, même si je fais pas de post ou quoi, on va te partager en story parce que tu interviens sur le live de quelqu'un ou sur le podcast de quelqu'un. Du coup, on te partage, t'existes, entre guillemets, voilà. Mais ensuite, tu me dis, si tu veux aller plus loin avec moi, tu me retrouves sur mon podcast ou sur ma newsletter. Et voilà mes services. Et ça s'arrête... Ça s'arrête là, quoi, juste pour ne pas être un fantôme. Mais je trouvais intéressant d'avoir cet entrepreneur qui disait, moi, je mise sur mon podcast, je fais un peu de pub, ou voilà, pub ponctuelle, quand il y a un événement ou un lancement, ou du SEO, ou un peu de Google Ads. Enfin, voilà, il y a plein de manières de faire. Et mais elle était complètement plus en mode, je vais poster, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais les liens, elle les avait autrement, quoi.
Mais complètement. Alors, tu vois, en préambule tout à l'heure, au début du podcast, je disais que les réseaux sociaux sont incontournables. Et ce que tu as dit là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est quand même obligé d'avoir un profil à jour parce que les gens aujourd'hui, premier réflexe, vont voir sur les réseaux sociaux, voir à quoi ça ressemble, notre univers. Et si on n'est pas du tout présent, eh bien, il y a un manque de confiance immédiat qui s'instaure. C'est comme ça, on a tous pris cette habitude-là, de la même façon que maintenant, avant d'aller dans un nouveau restaurant, on va aller voir sur TripAdvisor les notations et comment ça se passe dans ce resto-là. Eh bien, quand on veut faire appel au service de quelqu'un, on va aller voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, comment ça se passe. Donc ça, c'est hyper important d'avoir son profil à jour. Par contre, je trouve ça intéressant, tu vois, de... qu'il y ait des preuves vivantes comme quoi ça fonctionne complètement de s'exonérer, de s'affranchir des réseaux sociaux. Au-delà des métiers plus traditionnels tels que les artisans, voilà, mais vraiment sur des métiers qui, à la base, en fait, on n'aurait jamais imaginé.
Oui, des
imaginé.
Coachs en ligne, quoi. Enfin, c'est clairement, c'était une entrepreneur qui accompagne, comme nous, des personnes en ligne, avec des programmes en autonomie ou avec de l'individuel, peu importe, mais de la prestation de service, quoi, hein, tout simplement. Et ouais, je trouvais ça aussi intéressant.
Comme quoi, c'est possible.
Ben, en tout cas, moi, je sais que d'avoir lâché un Instagram et juste, voilà, je repartage quand on met une story, je mettrai mon, voilà, comme tu dis, mon profil à jour. Je pense que c'est bien d'avoir ta fiche d'identité, voilà, en ligne et à jour, mais ensuite que ça serve à rediriger vers les canaux qui t'intéressent vraiment, là où tu es pleinement. C'est tout simplement une redirection. Pour le moment, donc, ça fait quoi, 1 mois, 2 mois que j'ai changé. Et alors déjà, je poste sur LinkedIn parce que j'aime ça et je le fais pas. Voilà, c'est une fois par semaine. Il y a des fois où je l'ai pas posté, il y a des fois où je reviens. Et il y a de la visibilité et couplé avec du réseau et du podcast et d'autres stratégies. Pour le moment, en termes d'énergie, j'y trouve vraiment mon compte. Enfin, ça me correspond à moi. Hein, je dis pas ce qu'il faut faire, mais ça me correspond. Il y a le plaisir et je me sens pas. Je sens plus cette contrainte en fait, cette charge. Et les résultats sont là en finalement beaucoup moins d'efforts, enfin pour moi ce qui devenait un effort, et avec plus de résultats. Donc.
Mais ça c'est le problème en fait on est tout un peu pareil par rapport à ça, on devient entrepreneur, en règle générale les motifs principaux c'est justement pour se sentir plus libre, tu vois, être plus maître de son temps, faire beaucoup plus ce qu'on a envie, comme on a envie, et puis au final on rentre dans des schémas qui nous contraignent complètement, où on passe beaucoup plus de temps à faire des choses qu'on n'aime pas faire plutôt que celles qu'on aime faire. Et si on aime poster sur les réseaux sociaux, évidemment qu'il n'y a aucun souci. Et chacun gère sa stratégie comme il l'entend. Mais quand on n'aime pas ça, que ça nous épuise, que déjà on se lève le matin en soupirant parce que on a prévu de faire de la création de contenu sur les réseaux dans la journée et qu'on n'a absolument pas envie parce qu'on sait qu'en plus, on n'aura pas un résultat phénoménal, bah là, c'est... Je pense le bon moment, tu vois, pour Exactement. Se poser la question, justement, comment je pourrais faire
différemment. Comment je peux faire des contenus. Enfin, moi aussi, ma question, c'était, je veux du contenu durable. En fait, c'est cette course à, dans nos modes de vie même, tu vois, la course à la consommation. Je veux tout de suite, maintenant. Et puis je zappe, et puis c'est périmé, et puis j'achète autre chose, et je jette, et je rachète. Enfin voilà, il y a tout ça, moi, qui me gêne un peu. Et je me dis, je rentre là-dedans dans les réseaux sociaux où. Je suis obligée de, parce qu'il y a les règles du jeu quand même, elles sont là. Si tu vas sur Instagram, tu suis les règles d'Instagram. Toi, tu joues pleinement les règles du jeu. Soit, bah, effectivement, faut pas t'attendre à être trop visible. Et donc, si tu t'en détaches, tu dis, OK, tu me vois, je suis là, mais je viens comme je veux. Je viens que avec de contenu durable. Je viens quand j'en ai envie. Et si tu veux la réalité, le vrai de mon contenu, bah, tu vas plutôt sur cette plateforme. Et pareil sur LinkedIn. Il y a aussi, enfin, chaque, réseau a ses règles du jeu, et si tu veux que ça fonctionne et que la mayonnaise elle prenne, il faut jouer avec les règles du jeu là. Sinon, t'as intérêt à avoir d'autres leviers, parce que c'est pareil, il faut être aussi honnête, hein. Si tu publies une fois par-ci par-là sur Facebook, LinkedIn, Instagram, peu importe, il va pas se passer grand-chose. Faut en être conscient. Donc si tu reposes que là-dessus, en se disant bah moi je vais sur les réseaux mais je m'en fiche, je fais comme je veux puis je fais rien d'autre à côté, là aussi faudra pas s'étonner, il y aura pas de résultat, ça va être très compliqué. Si tu n'es pas à fond dans un réseau d'affaires ou à fond dans la prospection ou à fond dans autre chose, tu vas publier tranquillement sur les réseaux, mais il se passera, les résultats seront très tranquilles aussi, quoi. Il y aura pas grand chose.
Complètement. Mais ça, c'est valable pour tout, hein. Effectivement, il faut s'investir un minimum pour qu'il y ait des résultats dans la durée. Et justement, en parlant de durée, je rebondis sur ce que tu disais, tu vois, la durabilité des contenus. Moi, par exemple, sur mon podcast, donc je l'ai créé il y a 1 an et demi, j'ai tous les jours sans exception, des écoutes d'épisodes qui sont sortis il y a plus d'un an. Alors, parfois, c'est 1 ou 2 écoutes, mais tous les jours, sans exception, j'ai des épisodes anciens, on va dire, qui continuent d'être écoutés. Et ça, clairement, sur un réseau social, ce n'est pas possible, en fait.
Je l'ai constaté aussi, parce que mon podcast, il a juste 1 an, et au final, les écoutes, les gens ne s'arrêtent pas au premier ou dernier épisode. Ils vont voir d'autres épisodes, enfin, ils vont plus loin, quoi.
Complètement. Et c'est ça qui est ultra intéressant, et c'est là où on peut s'exprimer pleinement sur les sujets, et puis en plus, on peut aussi le décliner après dans sa newsletter, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour gagner du temps, mais au moins, on peut apporter un vrai plus, on peut apporter de la vraies valeurs, tu vois, pas juste trois astuces pour et puis avoir des discussions en profondeur comme celles que l'on a là justement, c'est, je trouve ça très intéressant, à la fois pour tes auditeurs, mais aussi pour nous. Ça permet d'avoir une réflexion aussi différente, d'avoir un point de vue, tu vois, de confronter les points de vue. C'est très chouette. C'est ça aussi qui est bien dans les échanges.
Merci Sandra pour cette belle conversation. Je pense qu'on a pu brosser plein de pistes ensemble, que effectivement l'idée c'était pas de dire repartez avec un plan d'action A, B, C, D. Voilà, non, il existe autant de stratégies que de personnes et de personnalités. Mais ce qu'on avait envie, c'était voilà de sortir un peu des injonctions, de notre tête dans le guidon, et de vous partager que oui, il est possible de faire autrement et on n'est pas obligé de courir et de foncer, de se cantonner sur les réseaux sociaux et de s'épuiser dans une course au contenu éphémère, et qu'il y a d'autres voies possibles et qu'on peut les aborder d'une manière plus saine, plus douce, plus ponctuelle, couplée avec une autre stratégie de fond pour apporter des résultats et trouver ses clients. Et pour terminer, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Et bien sûr, mon podcast qui s'appelle C'est quoi ce bazar, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute principales. Vous avez mon site internet aussi, studioemoi.fr. Donc, et moi, ça s'écrit HEMOY. Et puis, aussi quand même sur Instagram. Voilà, je poste surtout en story.
Ok, parfait. Bah, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et puis, merci en tout cas pour ce bel échange.
Merci à toi, Muriel. À très bientôt.
À très bientôt.
Si vous aimez ce podcast, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Un grand merci pour votre soutien.